Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite donc à revivre, en accéléré bien sûr, cette journée des perspectives du 17 avril 2018. Avant le coup d'envoi officiel, le petit déjeuner conférence, devenu tradition aux perspectives et qui accueillait Jean Nollet, président directeur général de la Coop Carbone. Changement climatique, réchauffement et gaz à effet de serre étaient au menu. Selon Jean Nollet, l'agriculture, ici, s'accommode assez bien des changements jusqu'à maintenant. Mais le secteur n'est pas que victime.
L'agroalimentaire contribue au problème de façon non négligeable. La principale source de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est la combustion des énergies fossiles. Mais pas très loin derrière viennent les changements d'affectation des terres, donc l'agriculture, qui sont une source importante de contribution au changement climatique du fait qu'en coupant des arbres, on limite la séquestration du CO2 dans l'atmosphère. Par ailleurs, les aliments que nous consommons, qui doivent être produits, stockés, transformés, emballés, transportés, préparés et servis, et chacune de ces étapes-là donne lieu à des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'élevage de ruminants représente à lui seul 10,4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Après cette période de réchauffement, si je peux me permettre, la journée était lancée par le président du Comité des perspectives, Vincent Cloutier, directeur du service des affaires économiques aux éleveurs de porc du Québec.
Le véritable leadership puise sa raison d'être dans le renouveau et la vision. C'est d'ailleurs le fondement des perspectives qui en sont à leur 28e édition. Historiquement, les générations montantes ont été des incontournables artisans de changement. Les changements structurels dans notre environnement sont inéluctables. Parfois arrivent-ils d'eux-mêmes, parfois doivent-ils être provoqués par bataille et conviction. L'histoire de l'agriculture est effectivement marquée par un incessant combat contre les éléments. Alors que la multiplication des accords commerciaux ébranle les autres y voient leur salut. Pendant que l'accord Canada-Europe, le partenariat transpacifique, l'ALENA, ou d'éventuels accords avec la Chine, l'Inde, le Mercosur font la manchette, des pressions technologiques et sociales s'exercent plus fortement que jamais sur nous. Antibiotiques, pesticides, bien-être animal, achat local et en ligne, des attentes aussi légitimes que déstabilisantes nous sont adressées par un consommateur changeant. Leur impact sur le management stratégique des entreprises est indéniable.
Et justement, quelles sont les attentes des consommateurs et leur poids sur l'industrie? Rajiv Singh, président de Foodshot Global, étudie depuis des années le comportement des partenaires de l'agroalimentaire mondial. Son groupe cherche les grandes idées, les innovations qui guideraient le secteur vers quelque chose d'aussi stimulant que la conquête de la Lune dans les années 1960. Rajiv Singh constate les bouleversements, particulièrement celui qui fait que les influences se sont maintenant inversées. Il y a quelques décennies encore, les géants de l'alimentation définissaient ce qu'était un bon repas et les agriculteurs produisaient ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui disent ce qu'ils veulent, et ils veulent beaucoup de choses. De bons aliments, variés et produits selon des règles claires et éthiques. Nous sommes passés de l'ère de la ferme à la fourchette à celle de la fourchette à la ferme. Le consommateur guide le secteur, et cela est très exigeant pour des entreprises qui cherchent encore de nouvelles façons de faire. Et tout cela dans un contexte où la production est de moins en moins rentable et les coûts des intrants de plus en plus élevés. Un exemple d'élément que l'on n'a pas encore adapté à la nouvelle demande, les États-Unis, tout autant que le Canada, voient une forte demande pour les produits biologiques. Mais aucun virage significatif ne permet de répondre à cette demande. On importe un fort pourcentage des aliments biologiques. Autre phénomène inquiétant, selon Rajiv Singh, on investit beaucoup dans le commerce électronique, mais trop peu dans les biotechnologies, l'Internet et la robotique. Un peu de politique maintenant, avec John Parisella, maintenant conseiller spécial au cabinet de relations publiques nationales et spécialiste des États-Unis, un pays en mutation, constate-t-il.
On est dans un contexte où on a un pays qui est en train de se transformer dans la façon qu'on le voit, et en même temps, c'est notre plus grand partenaire. Par la géographie, on est des voisins. Par l'économie, on est des partenaires et par l'histoire, on est des alliés. Et quand le président canadien a visité le Canada en 1961, il a dit que c'était une union américain-Canada qui ne pouvait pas être surpassée dans le monde. Puis je pense qu'à ce jour, on peut dire qu'on a beaucoup de choses en commun. On est des démocraties bien établies. Donc, quand on regarde la situation, on a plus de raisons pour rester dans l'entente de l'ALENA qu'on en a pour sortir. On continue un petit peu sur Trump. Pourquoi que Trump a gagné?
Donald Trump a gagné parce qu'il a touché les cordes sensibles des gens qui ne se sentaient pas écoutés dans cette mosaïque américaine. John Parizella est inquiet en voyant l'attitude de Donald Trump face à la communauté internationale et aussi devant l'imprévisibilité qui s'installe.
C'est une période qui est inquiétante et je dirais même dangereuse.
Quant à la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, John Parizella croit possible encore quelques concessions sur la gestion de l'offre.
Il peut y avoir quelques concessions qui peuvent être faites, mais je vous dis, au moment que je vous parle, que je ne vois aucun politicien, province ou au fédéral, qui va poser un geste qui va remettre en cause l'entente et qui va mettre en cause leur place sur l'échiquier politique. Je ne pense pas qu'on s'en va vers quelque chose qui serait, disons, impossible pour vendre à nos agriculteurs canadiens et que, mettons, l'UPA serait complètement laissé pour compte. Donc, je reste assez optimiste, sur le bord de la confiance en même temps.
Continuons sur la scène internationale. La prochaine invitée du CRAAC était Christina Bende, responsable des relations commerciales internationales à l'Office fédéral de l'agriculture de Suisse. Selon Mme Bende, les étrangers ont une vision bucolique de la Suisse.
Le gruyère, les alpages, les cloches. J'ai jamais entendu 60% des recettes des producteurs proviennent de mesures politiques de l'État, par exemple. J'ai jamais entendu, alors que la moyenne suisse des droits de douane est 9%, celle des produits agricoles est de 30%. Donc vous imaginez bien que dans ce contexte, conclure une trentaine d'accords internationaux commerciaux pour la Suisse n'est pas une mince affaire, en tout cas pas pour la Suisse agricole.
Mais chose certaine, la Suisse est parfois dans une drôle de position.
Donc vous voyez, entre les droits de douane qui sont en moyenne de 30%, des paysans qui tirent 60% de leurs recettes de l'État et un article constitutionnel qui demande de durabiliser l'agriculture dans le monde, quand on m'envoie, là où j'étais par exemple cette semaine, à Buenos Aires, négocier avec le Mercosur, j'ai des fois un petit peu de la peine à commencer les négociations.
Je me suis entretenu quelques instants avec Christina Bende. Madame Bende, la Suisse, de par son statut, sa position géographique au cœur de l'Europe, sans être dans l'Union européenne, ça rend les choses très compliquées pour négocier des accords commerciaux.
Ça rend les choses compliquées d'une certaine façon, parce qu'on est très intégré à l'Union européenne, en tout cas en ce qui concerne le domaine non tarifaire, mais ça rend les choses peut-être des fois plus simples, parce qu'on est un plus petit partenaire, donc moins menaçant pour le partenaire commercial souvent.
Et je vous entendais dire sur certaines choses, oui, on veut accéder au marché international, mais on veut aussi protéger notre agriculture interne. C'est une position qui ressemble à celle du Canada, ça.
Oui, je trouve que ça ressemble beaucoup à celle du Canada et je trouve que vous avez aussi trouvé des bonnes solutions. Moi, je regarde par exemple récemment votre accord avec l'Union européenne et nous, c'est une solution qui nous inspire beaucoup en tant que Suisse. On a vraiment les mêmes difficultés, oui.
Et pour ce qui est des fromages, bien, le Canada ne veut pas vous ouvrir la porte davantage.
Mais on va trouver une solution.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Nouveauté cette année aux perspectives. Deux classes de maîtres tenues en parallèle aux conférences. La première sur l'innovation accélérée pour stimuler la croissance des entreprises. Les deux maîtres étaient Kathleen Beaulieu, directrice innovation, recherche et développement chez Fruits d'Or, et Louis-Samuel Jacques, agronome et conseiller d'affaires. La classe est devenue atelier et les participants ont discuté de principes sur lesquels devrait se baser l'innovation. Premièrement, ce doit être une culture d'entreprise. Il faut établir un processus d'idéation. Troisièmement, il faut expérimenter à faible coût et apprendre des essais, même s'ils ont été des échecs. Il ne faut surtout pas se laisser aveugler, s'illusionner. Il faut bien établir un modèle d'affaires en considérant les clients tout autant que les partenaires. Et sixièmement, il faut viser les innovations à haute valeur ajoutée. Autrement dit, ne pas se contenter de 10% de plus de production, mais bien de 10% et plus de revenus. Et les participants ont été invités à élaborer sur ce qu'ils pourraient désormais faire de différent dans leurs entreprises. Le dîner qui suivait était offert par les producteurs de lait et les éleveurs de porc du Québec. En après-midi, les présentations reprenaient les thèmes de l'innovation et des entreprises. Avez-vous entendu parler de la technologie chaîne de blocs ou blockchain? On lui voit des applications aussi bien dans la traçabilité agroalimentaire que dans la finance sociale. La journaliste Diane Bérard animait un panel de 4 participants sur cette technologie. Outre Vanessa Grondin, directrice agroalimentaire au groupe Optel, il y avait...
Marc-Alexandre Adeline Lefebvre, Agri-Traçabilité Québec. En fait, le blockchain, c'est un assemblage de technologies qui permet d'enregistrer des informations de façon décentralisée, de façon à donner de la confiance dans ces informations-là, sans les mécanismes normaux de confiance qu'on a dans les transactions, c'est-à-dire des tierces parties qui vont venir valider ce qui se passe dans les transactions pour garantir que ce qui s'est passé est vraiment ce qui est dit.
C'est multisource, pourrait-on dire. Dans le blockchain, de par son nom, c'est une multitude de sources qui peuvent centraliser l'information ou la décentraliser, si on veut.
Oui, en fait, la blockchain va être le fruit de plusieurs sources d'informations qui vont mettre l'information générée par leur pratique d'affaires dans une blockchain. Et après ça, bien, il y a une décision, qu'est-ce qu'on fait, comment on interprète cette information-là. Mais l'interprétation de cette information-là appartient à tout le monde qui participe à la blockchain.
Aussi, prenant l'exemple de l'expérimentation actuellement menée dans le projet Bœuf Québec.
Marie-Christine Talbot, directrice générale d'Agri-Traçabilité Québec. Où, quand, comment, c'est les questions que le consommateur se pose. Et la blockchain permet de colliger toute cette information-là et de la rendre disponible aux consommateurs. Depuis le début, il se fait de la traçabilité d'animal vivant, donc de la naissance à la mort. Et l'ambition des producteurs a toujours été de faire une traçabilité de la terre à la table. On a fait des projets pilotes pour tenter d'amener cette traçabilité-là de la terre à la table. Par contre, au niveau des entreprises, à partir du moment que ce n'est pas une information qui est réglementée, donc qui doit être récoltée puis mise dans une base de données, les entreprises sont réfractaires. Elles ne veulent pas envoyer leur information dans une base de données pour le plaisir, je veux dire. Ça pose la question, bon, qui la contrôle, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Quand on a vu la technologie blockchain arriver, cette notion-là d'une base de données, d'un système décentralisé, de grands livres partagés, dont le protocole et les normes sont définis par ceux qui sont dans la blockchain, de type consortium en l'occurrence pour Bœuf Québec. Donc, c'est l'ensemble de la filière qui va décider quelle information ils veulent partager, mettre à l'intérieur. Oui, pour le consommateur, mais il y a une portion qui est entre les entreprises aussi, donc entre les finisseurs, l'abattoir, le transformateur. Eux peuvent décider de partager de l'information privée strictement entre eux autres.
Et pour confirmer que sera bientôt d'usage courant cette technologie de chaîne de blocs...
Pierre-Étienne Vachon, directeur des opérations Impact Finance. La blockchain va passer, selon moi, d'une technologie qui est un peu en arrière-scène, gérée par des programmeurs, des gens qui sont très techno, à une technologie que tout le monde utilise tous les jours, en fait. Donc, ces histoires de traçabilité transactionnelle, si on parle des gens qui envoient simplement de l'argent chez eux dans leur pays d'origine, commencent déjà à utiliser la technologie blockchain juste par ses frais d'utilisation, sa transparence, les frais qui sont quasi nuls. Donc, ces avantages vont commencer à transparaître dans la masse dans le futur. Puis on va de moins en moins parler de la technologie blockchain, mais plutôt de ces avantages-là qui sont maintenant possibles.
En ce début d'après-midi avait lieu une deuxième classe de maîtres sur le thème des besoins et des facteurs clés de succès des entreprises bioalimentaires dans leur démarche d'exportation. Les maîtres d'atelier Martin L. Cloutier, professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal, et Sébastien Arcan, professeur agrégé aux hautes études commerciales. D'emblée, on l'a dit, on ne s'improvise pas exportateur. Un surplus de production n'est pas une justification en soi pour se lancer sur les marchés extérieurs. Messieurs Cloutier et Arcan complètent actuellement un mandat pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec sur cette question de l'exportation et ont vérifié encore une fois les principales préoccupations et lacunes au sein des entreprises qui souhaitent développer des marchés à l'étranger. On sous-estime les coûts, le financement est inadéquat, on n'a pas vraiment de ressources dédiées, le suivi n'est pas adéquat. La connaissance des marchés est insuffisante. On ne réalise pas la complexité du travail d'exportation et des réglementations très variables d'une juridiction à une autre. Il faut une vision stratégique pour exporter, et cela au-delà de la créativité, de l'innovation et de la qualité. Pour nombre d'entreprises québécoises, surtout des PME, les problèmes sont ailleurs. Des questions d'exportation, on est ensuite passé à l'intelligence artificielle. Les possibilités qu'elle offre créent une véritable révolution. Et tout particulièrement chez nous, car Montréal a la plus forte concentration mondiale de centres de recherche dans le domaine. Myriam Côté est directrice exécutive de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal, le MILA, lui-même le plus grand centre de recherche en intelligence artificielle au monde.
L'intelligence artificielle, dans le fond, c'est des méthodes qui permettent aux machines de faire ce que les humains devraient faire. On va tout simplement, carrément, donner des données au système et ces systèmes-là vont se débrouiller avec ça. Ça, ce sont toutes les méthodes d'apprentissage automatique qui sont basées, dans le fond, sur des données. Ça bouffe des données. Dans toutes ces méthodes qui travaillent à partir de données, une méthode plus spécifiquement qui a fait une révolution, on est encore en plein dedans, c'est le deep learning ou apprentissage profond qui travaille avec des réseaux neuronaux. Alors, les ingrédients pour travailler avec nos algorithmes, c'est des données en grande quantité, de la puissance de calcul. Dans les ordinateurs, il y a des CPU, mais là, on va plus loin, on va avec des GPU. Les GPU sont pas mal plus puissants que les CPU, puis c'est ça qu'on a besoin pour travailler avec ces algorithmes-là. Puis finalement, après de la puissance de calcul, ça nous prend des algorithmes d'apprentissage profond. De ce que les modèles d'apprentissage profond peuvent faire, c'est un des secrets de leur réussite, c'est qu'ils sont capables de représenter de manière abstraite la complexité du monde réel où on vit. Et c'est pour ça que les applications qui les utilisent, ces méthodes-là peuvent gérer des situations de la vie réelle parce qu'ils sont capables de bien représenter la complexité du monde où on vit.
En fait, on transfère à des systèmes et des ordinateurs très performants le fonctionnement du cerveau et on soumet ces systèmes à de l'entraînement. Utiliser l'intelligence artificielle en entreprise implique, selon Myriam Côté, la conviction et la volonté des dirigeants.
Il faut qu'il y ait un engagement au plus haut niveau de votre direction pour supporter ce projet-là, parce que j'ai vu ça dans l'industrie, quand c'est la production qui est priorisée, puis c'est normal aussi, là. Bien, souvent, les projets de recherche sont mis de côté, puis ils n'avancent pas.
Quant à Caroline Forêt, chef vente et marketing chez Intellia, les possibilités et l'utilité des systèmes d'intelligence artificielle sont énormes. Elle prend un exemple agricole.
Et puis c'est en étant en contact justement avec les producteurs qu'on s'est rendu compte qu'avec les contrôleurs qui devenaient de plus en plus sophistiqués, qui collectaient de plus en plus de données, que nos producteurs étaient à un moment donné un peu dépassés par l'ensemble des données qui étaient collectées, puis ils ne savaient plus trop quoi en faire. Puis ça ne donne absolument rien de collecter des données si on n'en fait rien, si ces données-là ne peuvent pas nous permettre de prendre de meilleures décisions, de prendre de meilleures actions dans la gestion de notre production.
Autre exemple, en course automobile, une voiture de Formule 1 a 300 senseurs permettant de gagner quelques millisecondes.
Mais si l'analyse prédictive et l'intelligence artificielle nous permet d'aller chercher quelques grammes comme ça à chaque fois, avec le volume de production qu'on a à travers le Québec puis le Canada, bien, c'est des milliers de dollars qu'on est capable d'aller chercher en économie ou en gain.
Et d'ailleurs, de plus en plus, le contexte de la production agricole pousse à l'utilisation de hautes technologies comme l'intelligence artificielle.
Dans un poulailler, on va avoir environ 35 senseurs différents qui vont monitorer la pression statique, la température, l'eau consommée par les poulets, etc. Ça génère déjà une tonne de données. Ça devient vraiment difficile d'analyser tout ça en temps réel. Il y a tellement de choses, tellement de variables qui peuvent arriver. Il y a trois obstacles principaux à la capacité d'un humain d'analyser tout ça en temps réel. La première, bien, c'est la quantité d'éléments à gérer. Il y a quelques années, on se contentait de s'assurer que le poulailler était à la bonne température, qu'il y avait de la moulée, qu'il y avait de l'eau, puis que le poulailler était en bon ordre, puis c'était à peu près tout, là. On devait passer beaucoup de temps à observer les animaux parce que les cinq sens du fermier, c'était les meilleurs outils qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont changé avec l'avancement de la génétique, l'évolution des technologies, puis aussi la pression des consommateurs. bien, on se retrouve à être obligé de monitorer le CO2, l'ammoniac, la qualité des pattes des poulets, le niveau d'activité des oiseaux avec des caméras pour s'assurer que les oiseaux bougent puis sont actifs. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses de plus à gérer pour les producteurs. Puis ça s'ajoute en plus à tous les autres soins aux animaux, là, les vaccins, la médication, les additifs alimentaires, etc. Puis on combine à ça le deuxième obstacle, qui est le fait qu'on manque de temps, puis on manque de main-d'œuvre qualifiée.
Que de matière à réflexion que tout cela. D'un coup, on réalise que l'évolution s'accélère et que les technologies nous rattrapent. Il y a des choses cependant qui ne changent pas. La journée des perspectives 2018 s'est achevée sur la présentation de Jérôme Duprat, bassiste du groupe Les Cowboys Fringants, président de la Fondation des Cowboys Fringants et aussi professeur et chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée de l'Université du Québec en Outaouais. Ce qui ne change pas donc l'utilité des arbres et leurs bienfaits pour tout le monde. Jérôme Duprat élaborait particulièrement sur le projet 375 000 arbres pour Montréal. Je lui ai demandé de poursuivre à propos de plantations prévues bientôt en zone agricole en Montérégie.
Il ne faut pas mettre en opposition territoire agricole et plantations d'arbres ou friches. Donc, je crois que ça doit se faire dans les zones agricoles non cultivables, donc des boisés rocheux, des coulées agricoles, des bandes riveraines. Et il y a énormément de littérature scientifique qui nous montre que ces arbres en milieu agricole génèrent beaucoup de ce qu'on va appeler des services écosystémiques, donc des bénéfices qui sont parfois tangibles ou non. Donc, on sait que ça a un effet pour l'augmentation de la pollinisation, donc meilleure pollinisation des cultures, c'est un effet sur la production. Ça a un effet notable sur l'esthétisme du paysage, donc c'est parfois recherché d'avoir ces lignes d'horizon des arbres. Comme ça, on recrée des habitats pour la biodiversité qui créent un équilibre à l'échelle de la parcelle et à l'échelle du paysage. Et également, on a un effet de filtre. Hein. Tout le réseau racinaire peut stabiliser les sols. Quand on pense, par exemple, en Montérégie, aux effondrements de terrain, des sols argileux, on peut ici contrer ces affaissements de terrain. On peut filtrer certains polluants ou certains intrants de synthèse. Donc, on peut améliorer directement la qualité de l'eau dans les cours d'eau.
Et tout ça, bien sûr, en plus des effets très immédiats de protection d'espèces, de protection de l'air, de l'eau, etc.
Exact. Donc, il y a des bénéfices privés pour l'agriculteur. Ça a un effet sur sa productivité. Il y a même des programmes de soutien à la plantation d'arbres. Donc, ça peut devenir rentable. Mais pour la communauté, il y a des bénéfices sociaux. La qualité de l'eau, vous parlez de la biodiversité. Si on se met dans une perspective encore plus globale de lutte au changement climatique, bien, l'arbre va séquestrer du carbone puis va avoir un effet sur cette dynamique-là également. Donc, c'est multi-échelle.
Ici Lionel Levac. C'est là-dessus que se terminait la 28e édition des Perspectives, organisée par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Eh bien, vous avez constaté qu'on ne s'y ennuie pas. Donc, à l'année prochaine.